et reclus. Admissez !
Bonjour à toutes et à tous, c'est Forêt Reclus à l'Élysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Donc, ce soir, nous avons par téléphone Pascal. Allô Pascal, tu nous entends ?
Oui, je vous entends. Allô.
Ah, super.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Donc, nous t'avons ce soir parce que tu dois avoir de l'actualité à nous dire, à mon avis. Toi, tu es à Besançon, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je suis à Besançon. Je travaille dans une boîte qui s'appelle la DDSEA, donc c'est une boîte privée, mais services sociaux, éducation spécialisée, et très éclatée sur le département.
D'accord. Et
la boîte est en mouvement. Comment ça se passe dans ta boîte? Je crois savoir qu'il y a eu un débrayage aujourd'hui.
Oui. Il y a bien eu un débrayage aujourd'hui. Donc comme c'est une boîte très très éclatée. C'est assez compliqué pour mobiliser, mais du coup là il y a un service, bon, en plus des différentes manifestations nationales hein, où les collègues ont participé, donc là il y a un service, c'est le service qui s'appelle le service insertion qui a débrayé à 75% ce matin de 11h à midi, et on s'est retrouvé avec d'autres collègues, d'autres services. Il y avait quelques camarades cheminots, quelques camarades des impôts, des 2-3 lycéens, enfin des municipaux qui sont venus nous rejoindre. Donc on s'est retrouvés entre 40 et 50 sur le rond-point Place Flore à Besançon, ce qui est pas très loin du centre-ville. Et pour faire quelque chose un peu pendant notre débrayage, donc on a collecté de l'argent pour... On n'a pas vraiment bloqué la circulation, quoi. On a distribué des tracts et collecté de l'argent pour soutenir les raffineries. En moins d'une heure, on a collecté 218,92 €. Du coup, c'est pas mal, quoi.
D'accord. Ouais. Donc c'est un barrage filtrant, en fait.
Appeler ça barrage filtrant. En fait, on distribuait surtout des tracts et on collectait, mais il y a quelques... Parfois, il y a eu, par exemple, un camionneur qui a commencé à papoter. Donc, du coup, ça a bloqué quelques minutes, quoi.
Ouais, mais il y a un bon accueil de la part des gens.
Oui, on s'en est rendu compte, quoi. Ça a pris quelques minutes de retard si on n'avait pas été là. Et à part deux, trois qui ont dû nous dire aller au boulot ou des trucs comme ça, l'accueil était quand même vachement sympa.
Ah, c'est bien, ouais.
Rien que l'argent qu'on a collecté comme ça montrait que l'accueil était sympa, quoi. Il y a des gens qui ont donné des billets de 10 euros, des choses comme ça.
Et donc, comment ça se passe à Besançon ? Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements ? Comment ça se passe ?
Alors, Besançon, par rapport à d'autres villes, pas à la pointe de la mobilisation. Là, les cheminots, ce matin, ont reconduit la grève pour une journée, jusqu'à demain, quoi. Ils reverront demain. Qu'est-ce qu'il y a comme autre secteur ? Il y a une grève, mais assez minoritaire, sur le centre des impôts. Sinon, toujours des mobilisations quand même assez intéressantes quand il y a les journées nationales. Hein, la dernière manifestation du 19 octobre, il y avait 10 000 personnes dans les rues de Besançon. Donc, pour Besançon, c'est des très grosses manifestations. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a eu, en plus de notre petit débrayage, à 10 heures par exemple... Il y a les cheminots qui ont eu leur AG, donc qui ont voté la reconduite de la grève. J'ai cru entendre qu'il y a quelques écoles qui sont en grève aujourd'hui aussi. Notamment un centre scolaire pour l'enfance inadaptée au Thillerois, qui a un internat et qui est fermé. Il y a eu, les enseignants du premier degré ont fait un rassemblement vers midi, vers l'inspection académique, un pique-nique. Et sinon, les salariés des impôts en grève ont organisé un barbecue et puis avec un peu de vin. Donc il y avait aussi un peu de monde qui était là. Et en début d'après-midi, on s'est retrouvé à peu près à 80 personnes qui ont bloqué pendant un peu plus d'une heure les voies de chemin de fer sur la gare de Besançon. Il devait y avoir qu'un train qui passait. Bon, du coup, il aura du retard, quoi.
Ouais, tout dans la bonne humeur quand même, quoi.
Ouais, plutôt, ouais. Chez nous, c'est quand même assez tranquille pour l'instant, quoi.
Ouais.
Et au niveau des lycéens,
Alors, les lycéens, aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose sur Besançon, hein.
D'accord.
Il y a quelques lycéens qui ont participé aux actions interpro, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, ou alors c'était très tôt le matin, mais je crois que j'en aurais entendu parler, il n'y a pas eu vraiment, il y a eu des tentatives de blocage, mais pas grand-chose, quoi.
D'accord. Et donc une action comme aujourd'hui, elle s'est faite, en dehors des grandes journées d'action, il y a eu d'autres choses en amont qui sont organisées sur la ville.
Ben alors hier après-midi, il y a eu une opération escargot entre deux péages. Là, il y a eu je sais pas combien de voitures qui ont fait une opération, qui ont mis 2 heures pour faire 20 kilomètres. Donc, et je sais qu'à Montbéliard, ils ont fait la même chose dans le sens inverse. Donc, il y a eu 12 kilomètres de bouchons à peu près.
Ah ouais, ici, à côté de Périgueux, à Mussidan, il y a eu une opération péage gratuit hier après-midi.
Eh ben, il devrait y en avoir une bientôt.
D'accord. Ouais.
Voilà. Donc, il y a d'autres trucs qui se préparent pour demain. Là, ça commence un peu à se préparer des actions un peu au niveau interpro pour faire des choses entre les journées d'action.
D'accord, ouais. Ben c'est bon signe, alors c'est qu'il y a quelque chose qui commence à prendre.
Oui, ça commence. Alors, et puis Besançon, c'est pas le centre du monde. Donc, du coup, aussi en France, on voit. Là, j'ai pas encore vu toutes les infos de la journée. Mais par exemple, à Toulouse, il y a encore eu une très grosse manif aujourd'hui. Il y a plusieurs, en plus des cheminots et des raffineries, il y a plusieurs collectivités locales, notamment les éboueurs en France, qui sont en grève reconductible. Enfin, il se passe quand même quelque chose, quoi.
Voilà. Ça, on va peut-être y revenir dans une deuxième partie, mais je sais pas si tu peux nous parler un peu plus précisément de ton service et de ta boîte, comment ça s'organise, comment le mouvement il est perçu, comment les gens veulent se bouger aussi.
Alors bon, pour l'instant, les collègues ont débrayé ou sont mis massivement en grève à chaque fois qu'il y avait des journées nationales. Là, c'est venu vraiment d'un service où les collègues avaient envie de faire un truc et bon, c'est vrai qu'on a certains services où tous les horaires sont décalés, donc on voit jamais personne. Là, c'est un service où ils sont tous présents à certains moments, donc c'était très facile à organiser. C'est un petit service, une dizaine de personnes. Mais voilà, sur 9 qui travaillaient aujourd'hui, ils ont été 7 à sortir débrayés. Du coup, il y a un autre service qui avait une réunion qui était pas loin, ils sont venus à 7-8. Donc, puis d'autres qui sont venus comme, d'autres services comme ça, 1-2 par là. Donc ça a fait tout de suite un peu de monde. Et ce qu'on espère, c'est que du coup, ça donne des idées par service, d'essayer de réfléchir à des modes d'action. Avec notre faiblesse, c'est qu'on est très dispersé, mais ça peut aussi être une force en pouvant intervenir à différents endroits de la ville, quoi.
Voilà, un peu partout. Et...
voilà. De voir même, pourquoi pas, s'il y a une autre boîte à côté d'un tout autre secteur, d'essayer de faire un truc en commun avec l'autre boîte. Il faut voir les possibilités. Chaque service a des horaires différents, des trucs différents, mais il y a peut-être des possibilités de reproduire un peu ce qu'on a fait aujourd'hui sur d'autres services. Ça, je vais essayer de voir demain ce qui est faisable.
D'accord. Ouais.
Bon, c'est pas le secteur le plus stratégique, mais du coup, c'est pour ça que nous, on bloque pas la production, puisqu'on n'est pas la production. Mais du coup, on avait décidé d'apporter une solidarité aux camarades des raffineries qui sont un peu à la pointe du mouvement au niveau national.
Voilà, mais que ça bloque un peu de partout aussi, même si c'est pas des points stratégiques, même.
Et aussi, ça permettait, parce qu'il y a du monde qui passait, quoi, de voir que, il y a un mouvement, il y a d'autres boîtes, il n'y a pas que les cheminots. On s'est montré en tant que salarié de la DDSEA qui était en grève. Enfin, on a distribué un tract où on disait, nous on débraye, on est solidaire, on collecte en solidarité avec les raffineries, mais la meilleure solidarité, ça reste d'essayer d'organiser des grèves dans vos boîtes, de rejoindre la mobilisation un peu partout, quoi. Et du coup, ça peut peut-être même donner des idées en dehors de la DDSEA, d'autres petits secteurs ou petites boîtes, où ils sont 30, 20, 30 dans un service, ils se demandent un peu ce qu'ils peuvent faire. C'est le genre de trucs qui sont assez simples à organiser, quoi.
Ouais, ouais. Parce que tu disais qu'au niveau de l'interpro, il n'y a pas vraiment de choses qui se construisent, quoi.
Ça commence à se construire un peu.
C'est le meilleur moment, quoi. Il y a des journées d'action comme ça, où les gens se retrouvent pour faire des choses ensemble, quoi.
Aujourd'hui, il y a eu pas mal de trucs. Il y a des rendez-vous prévus demain, mais je peux en parler demain soir. Je peux pas encore en parler à la radio. il y a des rendez-vous fixés pour demain. Là, les choses se construisent petit à petit. Ce qu'il y a, c'est que sur Besançon, c'était quand même, et ça reste, les cheminots, et les cheminots tout seuls ont du mal à faire de l'interpro, puisqu'ils sont tous cheminots. Donc du coup, c'est là, aujourd'hui, il y a eu des trucs en commun avec les impôts, avec des instits. Il y a des cheminots qui sont venus, j'étais passé à l'AG des cheminots pour leur annoncer qu'on débrayait. Il y a, je sais pas moi, 15-20 cheminots qui sont venus participer à notre rassemblement avant d'aller à l'apéro organisé par les impôts. Donc les choses commencent à se mettre en place, là.
D'accord.
Voilà. Mmh. On n'est pas à la pointe de la mobilisation, on n'est pas Marseille, mais on est une petite ville de province où des choses petit à petit se mettent en place.
D'accord. Eh bien, on va parler du mouvement en général, après une petite virgule musicale. On écoute « Nous sommes le pouvoir ensemble » de Colette Magnier.
Ça, ok.
Je ne sais pas si tu connais, Pascal.
Non, je ne
sais
pas.
C'est la chanson du film « Classe de lutte » sur l'usine Yéma à Besançon en 69.
Bon, d'accord.
Le patron demande la parole au nom de la liberté. C'est pas le patron qui commande la grève, c'est nous qu'il monte sur le mur comme tout le monde au nom de la démocratie. Il a écarté nos délégués, preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. Il n'a pas le droit, ça se fait pas au nom de la démocratie. Quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens au nom de la démocratie. Ils sont fatigués en ce moment, versant leur anacompte. On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées. C'est comme ça qu'ils essaient de nous avoir. Au nom de la démocratie, nous proposer 10% sans l'échelle mobile, on ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra au nom de la liberté. Camarades, nous ne pouvons pas accepter la division jusqu'à maintenant. Nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.
Forêt reclus à l'Elysée, sur Radio 103.
Ouais, radioperi203.com sur internet et sur l'audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Elysée, le tout attaché et sans accent. Cette émission repasse sur les ondes et sur internet dimanche à midi et samedi à 4h du matin, et sinon l'émission sera sur l'audioblog demain.
Alors aujourd'hui on est le jeudi 21 octobre, on est avec Pascal au téléphone depuis Besançon. Donc comment tu vois le mouvement en fait aujourd'hui et où il en est, quoi?
Ce qu'on se rend compte, hein, c'est un peu ce que je disais avant, c'est que même en dehors des grandes journées, même en dehors des corporations qui sont connues pour être en grève reconductible, je pense aux cheminots ou aux ouvriers des raffineries, on voit qu'il y a du mouvement un peu partout, quoi. Bon, là, j'ai vu à Toulouse qu'il y a eu une très grosse manif, je sais plus, je crois 30 000, un appel local, quoi. Ils ont été 30 000 ou quelque chose comme ça. Je parlais dans les collectivités territoriales, en particulier les éboueurs, parce que c'est ce qui est plus visible. Bon, ils sont en grève reconductible à Saint-Étienne, à Nantes, je crois qu'aussi à Alès, enfin, dans l'Hérault, enfin, dans pas mal d'endroits. Il y a Marseille où il y a en plus les cantinières, les femmes, celles qui s'appellent les tatas, qui surveillent les cantines scolaires, qui sont en grève, elles, depuis le 23 septembre. Enfin, il y a comme ça plein. Il y a certains endroits où c'est les profs qui sont en grève, ou en plus certaines facs, les lycéens. Enfin, on sent comme ça un mouvement qui commence, qui existe. Il y a aussi tous les blocages. Hier, mercredi matin, il y a eu plusieurs aéroports qui ont été bloqués, y compris Charles de Gaulle à Paris, à Toulouse, Toulouse-Blagnac par exemple, où il y a eu un millier de personnes qui sont venues pour bloquer l'aéroport. Donc c'est quand même des chiffres énormes. En dehors des temps de mobilisation, des gens qui se lèvent à 4-5 heures du matin pour aller militer, pour c'est pas des choses qu'on voit tous les jours, hein. Je pense des gens qui militent par exemple dans des unions locales de syndicats, tout ça, c'est parfois difficile de trouver des gens pour aller distribuer un tract à 6 heures ou à 5 heures devant une boîte. Et là, il y a plusieurs villes où il y a tous les matins des centaines, voire un millier de personnes qui sont prêtes à se retrouver à 6 heures du mat ou même avant pour bloquer un entrepôt, un dépôt de bus, un aéroport, une gare, un centre de tri, enfin des tas de choses comme ça, qui est une zone industrielle. Il y a des tas de choses comme ça qui se passent un peu partout, en dehors des grandes journées d'action qui restent quand même des journées qui mobilisent énormément de monde. Je prenais l'exemple de Besançon, mais on peut prendre un peu partout. C'est à chaque fois des chiffres qui dépassent les manifestations, par exemple, de 95. Je me rappelle de 95, j'étais tout jeune à l'époque, où le but, c'était être 1 million dans la rue, parce que Juppé avait dit, tant que vous n'êtes pas 1 million, vous n'êtes rien. Là, alors, selon les organisations syndicales, on ne va pas faire les débats des chiffres, il y a eu plusieurs journées qui ont approché les 3 millions. Bon, alors, quels que soient les chiffres qu'on prenne, c'est des chiffres qui sont supérieurs aux mobilisations de 95 ou des mobilisations contre le CPE. Et sur la durée, ça fait depuis début septembre que les gens reviennent à ces grandes manifestations. D'un côté, ça explose pas. On n'est pas dans une situation, pour l'instant, comme en 68, où, je dirais, une boîte après l'autre se met en grève. La plupart des grosses usines tournent. PSA, je pense à Peugeot, à Renault, Michelin... Il y a parfois des petits débrayages, mais bon, c'est pas la grève générale. Mais on sent quand même un mouvement qui est prêt à s'inscrire dans la durée avec des gens qui veulent pas lâcher. Avec des gens, des salariés, des lycéens, des chômeurs, qui veulent pas lâcher, qui veulent se battre. Et un gouvernement qui, de son côté, joue pas la carte social-démocrate, je dirais, d'essayer de trouver une confédération syndicale type CFDT pour négocier un truc et mettre fin au mouvement, qui est aussi très dur. Donc on est dans une situation qui me semble intéressante d'un point de vue de la lutte de classe, puisque ça dure sur un moment, et de plus en plus de gens, non seulement participent aux journées d'action, mais s'investissent aussi, militent pour le mouvement, pour organiser quelque chose dans leur boîte, pour aller se lever le matin, bloquer un dépôt de bus ou un dépôt de carburant, puis aller au boulot après parce que la boîte n'est pas encore en grève, pour préparer une manif. Enfin, il y a des tas de choses intéressantes qui se passent un peu partout.
Justement, ces blocages, ce mode d'action, là, c'est quelque chose d'assez original pour le mouvement. C'est même un mot d'ordre qui s'est un peu imposé en dehors des... Enfin, qui porte de la base, quoi, qui a un peu été imposé par, je pense, par rapport aux directions syndicales.
Ouais, alors...
C'est pas un mode d'action classique.
Encore qu'il y a beaucoup de blocages qui sont aujourd'hui organisés par les intersyndicales locales. Hein.
Mais justement, ça s'est quand même imposé petit à petit, et puis ça c'est quand même un mot d'ordre qui est parti de la bosse plutôt.
Ouais.
Alors... Enfin, qui a été imposé, qui a été.
J'ai l'impression que alors les blocages sont sûrement venus comme ça, hein, aussi des raffineries puisqu'il fallait bloquer les dépôts. Et qu'il y a quelque part, il y a aussi des blocages parce que justement on n'est pas dans une situation de grève générale. Si t'as vraiment une grève générale, il n'y a pas besoin d'aller bloquer une zone industrielle, puisque de toute façon, elle est bloquée par les grévistes. Et donc, j'ai l'impression, comme on n'est ni dans une situation où une grande partie de la population serait en grève reconductible, ou une grande partie des secteurs y serait, mais avec une volonté de se battre, alors parfois, ça peut être 10 salariés d'une boîte, 50 d'une autre, 60, qui ont envie de faire des trucs qui se voient, des trucs... qui gêne le fonctionnement de l'économie capitaliste. On arrive à des blocages, parfois appelés, comme sur les aéroports, en gros, le blocage à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est la CGT de l'aéroport qui a dit venez nous aider à bloquer l'aéroport. Donc il y a... Et ça mobilise du monde, quoi. Ça mobilise du monde. C'est vrai que c'est des modes d'action qui existaient un peu avant, mais qui, là, se généralisent et qui, d'ailleurs, font peur au patronat. Ça, plus la grève des raffineries. Moi, j'ai vu, je crois que c'est hier, où le MEDEF de Picardie était presque, avait fait un communiqué où il disait quasiment au gouvernement, bon, essayez de négocier là, parce qu'on perd trop de fric.
Ouais, ça commence à coûter.
Qu'est-ce que tu disais?
Ça commence à taper dans le portefeuille.
Ben, c'est fait pour ça, je pense. Mais tu crois qu'on peut attendre justement la grève générale, là, Pascal?
Je sais pas ce qu'on peut atteindre dans 3 jours, ouais, ou dans 5 jours. Au mois de juin, j'aurais jamais pensé que parce que bon, ça fait des années que j'entends au mois de juin la rentrée sociale sera chaude. Hein.
Oui.
Et souvent, plus je l'entends, plus la rentrée sociale est minable. Et là, je suis moi-même étonné par la longueur du mouvement. En gros, depuis le 7 septembre, tous les 15 jours ou toutes les semaines, il y a des grosses manifs. Il y a des gens qui essaient de s'organiser pour faire des choses. Alors, on est dans un entre-deux. Moi, j'ai l'impression soit le mouvement se généralise de plus en plus et la situation devient de plus en plus ingérable par le gouvernement qui va être obligé de lâcher sur sa réforme, comme il a lâché sur le CPE, qu'elle soit votée ou pas, ça n'a pas d'importance. Hein. Soit certains secteurs radicaux comme les raffineries restent ou les cheminots restent isolés. Et le gouvernement joue le pourrissement, la répression, et impose. J'ai l'impression que c'est vraiment, et c'est ressenti aussi comme ça dans le monde du travail. C'est en gros, si on laisse passer ça, on s'en prendra. Ce sera une défaite pour longtemps. Et pour le gouvernement, c'est presque ça aussi. Si il retire sa loi, parce que c'est presque symbolique cette histoire des 60 ans. Les autres réformes, c'est tout le temps des augmentations de la durée de cotisation. La CFDT est prête à discuter là-dessus, sur augmenter la durée de cotisation. Ça fait quelques manifs. Il y a eu quand même le mouvement en 2003 et tout. Mais ça paraît pour la plupart des gens beaucoup plus technique, même si ça revient au même. Ça veut dire que tu pars en retraite plus tard. Ça paraît plus technique que de dire, voilà, de 60, tu passes à 62, de 65 à 67. Et là, il y a une impression, bon... il y a effectivement l'augmentation de l'âge de la retraite, et derrière, il y a aussi le fait de dire non, mais vu les conditions de boulot qu'on a, vu les pressions qu'on a, le chantage au licenciement permanent, les salaires qui ne suffisent pas à joindre les deux bouts, c'est pas possible, on restera pas 2 ans de plus dans la boîte, quoi.
Mais ça touche tout le monde, ça touche aussi bien les gens qui ont passé déjà leur vie au travail que ceux qui ne sont pas encore dans le monde du travail. Il y a eu la venue dans le mouvement des lycéens. Ça a été très brutal, très spontané, leur arrivée dans le mouvement. Et c'est peut-être bien un signe que l'histoire de la retraite à 60 ans, c'est quelque chose d'assez symbolique, mais ça place tout le monde devant le problème de passer sa vie au travail et de comment ça se passe avec le salariat actuellement, quoi.
Ouais, dans une situation où il y a plein de chômeurs, où en plus la plupart des salariés ne comprennent pas, disent pourquoi je devrais bosser plus longtemps alors que mon gosse est au chômage. Les jeunes le comprennent, les lycéens, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est un mouvement de lycéens. Alors déjà sur le CPE, c'était un mouvement surtout des lycées, des LEP, sur une problématique de monde du travail, c'est-à-dire plus tard on veut pas avoir un contrat précaire pendant 2 ans, et là c'est aussi des lycéens, c'est pas les manifs lycéennes qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans, où c'était en gros des moyens pour nos lycées, c'est des lycéens qui manifestent, qui se battent en tant que futurs travailleurs ou en tant que futurs chômeurs, et qui sont qui sont pas encore dans le monde du travail, mais qui reprennent les revendications du monde du travail, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis il y a même une grosse différence avec ce qui s'est passé il y a quelques années. On pense à 2005 par exemple, à l'irruption de la figure du casseur, qui a rien à voir avec des revendications un peu traditionnelles du monde du travail. Peut-être que dans ce mouvement-ci, justement, il y a une jonction qui se fait et les préoccupations des uns des autres, elles sont pas si éloignées que ça, quoi. Et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il y a une si forte répression sur les lycéens, qu'on tape très fort et...
Ils ont tapé très fort, je crois, aussi pour faire peur, et faire peur aussi aux travailleurs, parce que sur les travailleurs, ils tapent aussi assez fort. Il y a eu plusieurs exemples de manifs, je crois que c'était le 23 septembre, à Bar-le-Duc, par exemple, en Lorraine. La manif très calme, les CRS se mettent à acheter des gaz lacrymogènes. Il y a eu des provocations et deux arrestations de travailleurs à Belfort, à la manif du 23. Il y a eu Saint-Nazaire. Enfin, il y a plusieurs exemples comme ça. Alors, il n'y aurait qu'une ville. On peut se dire, les flics étaient bourrés, c'est une erreur. Plusieurs villes, on se dit, c'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est des ordres qui viennent de haut. Et sur les lycéens, on l'a vu, c'est que... il y a des lycées, même, par exemple à Besançon, début octobre, j'ai plus exactement la date là en tête, le lycée Victor Hugo était bloqué par des lycéens, un blocage vraiment gentil, quoi. Les flics sont arrivés, ça a été du tabassage très rapide. Du coup, les profs se sont mis en grève parce qu'ils ont été choqués par la violence avec laquelle la police est intervenue. Il y a la vidéo qui circule et ce qu'on a à Montreuil, où il y a quand même un gosse qui risque de perdre l'œil. Ouais, c'est un tir de flashball.
Ouais, c'est ça. Avant, il y avait eu Caen aussi, où un manifestant s'était ramassé un tir tendu de lacrymo. Il s'était fait ouvrir le crâne. Ouais, il y a eu une série comme ça de violences policières. Et même actuellement, aujourd'hui même, depuis quelques jours, là, c'est ce qui se passe sur Lyon aussi. C'est assez peut-être emblématique,
ouais,
ou assez en pointe par rapport à la répression. C'est-à-dire que pour la manif du 19, il y a eu une rue très commerciante, très bourgeoise qui a été pillée. Et en fait, la police s'est vue attaquer dans les rues dans le centre de Lyon à ce jour-là. Le lendemain, il a fallu faire venir des renforts. Il y a 800 policiers qui sont à pied d'œuvre pour rétablir le calme. Ça a été fait hier. Le centre-ville a été bouclé. Le préfet a interdit les transports en commun. Et aujourd'hui, il y a une manifestation contre la répression qui n'a pas pu se tenir parce que le centre-ville est bouclé. Il y a le GIPN qui est là avec ses camions blindés. On encercle les manifestants sur un pont, on les bloque sur un pont ou sur une grande place et on les fait sortir en les fichant, en les fouillant un par un.
C'est aussi.
Sur Lyon, c'est assez effrayant en fait ce qui se passe. Donc oui. Ça, on le sent pas dans les grands médias, mais sur Internet, par exemple, vous allez voir le site rébellion.info, qui est un site participatif local, et on a les infos sur ce qui se passe, quoi.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une tentative, en particulier avec les lycéens, mais il y a aussi eu des salariés où il y a eu de la répression, mais surtout sur les lycéens, de faire aussi très vite de la provoque. Et je pense, pour effrayer les lycéens, pour effrayer aussi leurs parents, parce qu'il y a des lycéens qui vont pas en grève ou en manif s'ils n'ont pas l'accord de leurs parents, ça existe. Et là, bon, je crois qu'on verra surtout après les vacances de la Toussaint si leur stratégie a marché. Mais c'est vrai qu'il y a quelques lycéens que j'ai pu croiser à Besançon qui suivent ce qui s'est passé ailleurs, qui après l'histoire du tir de flashball étaient à la fois révoltés mais aussi avaient peur. Ce qui peut se comprendre, hein. Avaient peur. Et il y a eu plusieurs endroits où c'est les salariés qui ont été attaqués. Il y a eu la manif du 19 au Havre. Alors après, parfois la répression est tellement bête qu'elle pousse à la mobilisation, puisqu'ils ont chargé des dockers. Donc du coup, le 20, le port du Havre était bloqué. Et il y a eu à Rennes, où il y a eu un blocage au dépôt de bus, des grévistes et des travailleurs d'autres secteurs solidaires, où les flics sont intervenus, ils ont tiré des lacrymos, et il y a une grenade lacrymogène qui a explosé à côté des non-grévistes qui attendaient de prendre le boulot. Et du coup, 95% des chauffeurs de bus étaient en grève.
Alors, par rapport à répression et radicalité, comment tu vois la chose? C'est un peu un cercle vicieux où il faut qu'il y ait des signes de radicalité comme ça qui...
Je ne crois pas que les signes de radicalité, pour moi, soient forcément à un niveau d'affrontement ou de violence. Surtout que pour l'instant, à l'affrontement, je dirais corps à corps, on sait qui va gagner. Et ce n'est pas nous. Là, il y a déjà plus de 1000, voire c'est pas 2000 lycéens qui ont été arrêtés. Je pense que c'est plutôt extension du mouvement qui amène la radicalité, qui amène la force qui amène la force du monde du travail. Ce qu'on voit en particulier avec les raffineries, qui sont qui avec les blocages et tout ça, où là le gouvernement ça lui fait très peur puisqu'il a une crainte de blocage économique du pays, quoi.
Ben oui, puis c'est sur la durée aussi, quoi.
Oui.
Et puis oui, justement aussi par rapport au blocage, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est peut-être plus intelligent en bloquant, en débloquant puis en allant bloquer ailleurs plutôt qu'en résistant sur un point, quoi.
Ben, si on n'a pas le rapport de force, et pour l'instant on l'a pas face à une compagnie de CRS à moins d'être 10 000, pour l'instant on l'a pas, à la limite autant partir jouer la montre, partir aller bloquer ailleurs ou revenir 2 heures après. Ou alors bloqué ailleurs. Il y a eu aussi eu des trucs rigolos. Il y a eu la raffinerie de Donge où ils ont réquisitionné des cadres pour remettre en place l'approvisionnement de fuel de kérosène pour l'aéroport de Paris. Et du coup, c'est ceux qui transportent le kérosène depuis l'arrivée pour les quelques centaines de mètres qui restent pour aller jusqu'aux avions qui se sont mis en grève le lendemain. Donc du coup, c'était toujours bloqué. Donc c'est pas le niveau d'affrontement, c'est aussi comment les gens se sentent prêts ou jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc je pense pas que c'est une question. La radicalisation, à mon avis, c'est aussi la radicalisation par la vision politique. C'est aussi et c'est aussi essayer d'étendre le mouvement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, en tant que militant, peut être assez facile. C'est gratifiant, je dirais, hein. C'est d'aller dans l'interpro, de participer à des tas d'actions. C'est bien de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut essayer de mobiliser aussi nos collègues, là où ils sont, dans leurs boîtes, dans nos boîtes, pour réussir à étendre le mouvement et de voir ce qu'on peut faire avec un maximum de monde aussi, un peu partout.
Parce qu'il y a une prise de conscience politique, là, tu sens justement chez les non-militants, si je peux dire.
Prise de conscience politique, ouais. En partie, il y a un ras-le-bol de l'ensemble, je pense, de la politique du gouvernement et de la politique antisociale. Après, on sort quand même, je dirais, de décennies où il n'y a pas eu de perspective politique propre à la classe ouvrière, où tous les termes qui ont été forgés dans les luttes anciennes, socialisme, communisme ou même anarchisme, tout ça, ont été marginalisés. Et là, c'est pas même en 15 jours ou un mois de mouvement qu'on peut remettre ça à l'ordre du jour, quoi. Ouais. Ça demande un travail politique, à mon avis, un peu plus long, malheureusement.
Alors justement, on continue à en reparler après un petit morceau.
Ouais.
On s'écoute un grand classique, l'International.
D'accord. Allez.
Jokte met lieve ook zeer vast te plannen. L'international sera le genre humain, c'est la lutte
sentirait l'esprit du cachot. L'impôt seigneur, le malheureux du devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est à celle qui rend tutelle l'égalité de notre loi. Pas de fois sans devoir tutelle et comme pas de devoir sans droit. Demain, l'international fera le genre humain. C'est la lutte finale. Coupons-nous, c'est demain. L'international sera le genre humain. Après, nous sous le de fumée. Et nous, appliquons la grève aux armées. Croissons les rêves, rompons les rangs. Ces cannibales à faire de nous des héros. Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. C'est la lutte finale. Coupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Coupons-nous et demain l'international sera le champ humain.
Forêt reclus à l'Élysée. On est le 21 octobre. On parle du mouvement qui s'installe un peu dans la durée quand même, autour de la réforme des retraites, avec Pascal qui est au téléphone en direct depuis Besançon. Justement, un mouvement qui s'installe dans la durée, quelle perspective on peut y voir, ou alors qu'est-ce que ça veut dire comme revendication qui pourrait dépasser le premier motif, la réforme des retraites. Il y a des choses qui peuvent déborder, il y a des choses qui commencent aussi.
Pour l'instant, on n'a déjà pas gagné hein, sur la réforme des retraites. Donc, je pense.
Mais on est en plein dans le rapport de force là.
Oui, on est en début du rapport de force. On n'a pas gagné, donc c'est que.
Mais faut pas anticiper.
Qu'est-ce que tu dis ?
Faut pas anticiper d'autres choses alors que là, pour l'instant. Il n'y a pas déjà la victoire sur la réforme des retraites.
Encore que, il y a pas mal dans les mouvements et tout ça, il y a pas mal d'autres revendications qui se greffent, défensives aussi. Par exemple, je sais que les endroits où les postiers sont en grève, ils mettent beaucoup en avant les questions de restructuration de la poste et de la dégradation des conditions de travail pour les facteurs. Les ports et docks, ils ont leurs propres, les dockers et les grutiers des ports, ils ont leurs revendications propres par rapport à la pénibilité où ils veulent maintenir, ils veulent avoir une garantie de départ en retraite à 55 ans. Et il y a aussi des boîtes où il y a l'histoire de réforme des retraites, mais il y a les revendications classiques, notamment contre les licenciements, c'est le cas à l'ex-Saint-Gobain, dans les verreries. Il y a aussi des revendications pour les salaires qui peuvent surgir dans d'autres boîtes. Enfin, il y a d'autres revendications qui apparaissent aussi. Et dans ce climat-là, justement, là je reviens un petit peu à Besançon. Lundi, il y a une ouvrière d'OG Découpage qui a été sanctionnée, qui a eu un avertissement. La direction a trouvé un prétexte bidon. C'est une fille qui avait participé à toutes les manifestations et à tous les débrayages. Et les ouvriers de l'usine se sont mis à 80% en grève, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les cadres et les intérimaires qui n'ont pas fait grève. Le lendemain matin, la direction, du coup, a levé la sanction. Et les ouvriers, ils ont dit, oui, mais nous, on veut le paiement des jours de grève. La direction a dit, ah ben non. Ils ont continué la grève. Dans l'après-midi, non seulement la sanction était levée, mais les jours de grève étaient payés. C'est presque aussi, je crois, le moment, dans certaines boîtes, grâce au climat qu'il y a autour, quand il y a des revendications qui traînent depuis un moment, d'y aller sur ces revendications-là. Je sais qu'il y a, dans certaines boîtes de la métallurgie autour de Besançon, des ouvriers qui commencent à se poser la question. Bon, pour eux, là, c'est pas tellement sur la retraite. Ils débrayent quelques-uns pour la retraite. Et se disent, bon, bah là, les salaires sont trop bas. Il faudrait peut-être qu'on commence à se, qu'on se mette en grève pour les salaires vis-à-vis de la direction, quoi.
Ouais, ouais. Alors, d'un point de vue stratégique, là, il y a des secteurs qui sont en pointe, là. C'est les trois, je sais pas, il y a les ports, au début du mouvement. C'est toujours en mouvement, ça. Et puis il y a les raffineries. Donc, on va écouter un reportage des camarades de Radio Canu, qui sont allés voir les grévistes de la raffinerie de Fezin, près de Lyon, hier. Le 20 octobre, c'est parti.
Là, vous êtes sous le piquet de grève de la raffinerie Total de Fezin. Donc ce matin, là, il y a les copains qui sont là, les postiers qui sont venus nous soutenir. Hier, il y avait les copains de Rodia Belle Étoile qui sont passés. On est mercredi, demain c'est jeudi, ça va passer sûrement au Sénat, il va y avoir l'intersyndicale. Donc là, la semaine, elle va être cruciale encore. Et puis je pense que la semaine prochaine aussi, sauf si on a un élément majeur, hein, je pense que tout le monde attend le 20h où le président va s'exprimer. Hein, solennellement, et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors pour l'instant, il y a eu deux votes. Le premier vote, il y avait 310 personnes qui se sont exprimées, 60% de grévistes pour continuer le mouvement. Deuxième vote, qui s'est passé 48 heures plus tard, il y a eu 403 salariés qui se sont exprimés sur 650, avec 73% de grévistes.
Donc ça augmente.
Donc c'est en augmentation. Il faut savoir qu'il y a deux populations. Il y a bien la population des postés. Ils sont très déterminés. Donc les postés, c'est ceux qui sont en exploitation, qui font tourner les unités, qui les démarquent, qui les arrêtent. 90% de grévistes dans cette population-là. Et les gens à la journée, donc vous faites le ratio. Hein, si on est tombé à 73%, ils sont un petit peu moins grévistes à la journée. Mais ça commence à évoluer. Effectivement, nous, là, on a un schéma qui est un peu particulier ici à la raffinerie. Hein, donc, il y a la première, on va dire, la première barrière où c'est l'ensemble de la plateforme. Donc, aujourd'hui, c'est bien la plateforme des 650 salariés qui est en grève. Si demain, les résultats seraient dans un sens différent, il y aura la deuxième barrière, celle de l'exploitation et des salariés qui sont en bleu et qui démarrent et qui bossent entre 8 et qui ont fait les fins, qui ont fait l'effort, qui sont déterminés. Ils ont mis une semaine pour arrêter toutes ces unités-là. Eux, ils sont déterminés à 90%. Donc, ils vont nous mandater, nous, délégués syndicaux, pour intervenir auprès de la direction, dire qu'effectivement ils sont en grève, et ça sera une grève sectorielle, par secteur, et la raffinerie ne redémarrera pas.
Moi je vais rajouter quelque chose, je vais rajouter un truc concernant la réforme proprement dite des retraites. Le gouvernement aujourd'hui s'évertue à nous expliquer qu'elle est juste, que c'est une réforme équitable et nécessaire. Il y a eu un amendement qui a été déposé le 3 septembre 2010. Cet amendement, c'est l'amendement 249. Alors, tous les gens qui écoutent là, vous allez prendre internet, vous avez tapé amendement 249 sur la réforme des retraites. Il va sortir sur Internet. Cet amendement a été proposé donc par 4 députés. Il proposait que la réforme des parlementaires, donc celle qui concerne les membres du gouvernement et tous les gens qui nous gouvernent, de l'étalonner sur la nôtre, celle qui sont en train de nous proposer là. Et bizarrement, cet amendement a été rejeté à la quasi-unanimité. Donc on a un gouvernement aujourd'hui qui est en train de nous dire la réforme elle est juste, elle est équitable, pourquoi vous gueulez? Pourquoi vous battez? Quand il faut s'appliquer pour eux, eh ben ils le font pas. Alors il y a quand même un truc qui est quand même pas normal, il y a un sacré paradoxe là. Donc ça déjà je tenais à le dire moi. Concernant ce qui se passe en France aujourd'hui, je tiens aussi à dire que ce matin à Donges, donc en Loire-Atlantique, les forces de l'ordre sont venues débloquer un dépôt. Donc ils sont venus, ça s'est passé sans heurts, tant mieux. Sur le dépôt, il y avait un piquet de grève, il y avait à peu près 500 personnes. Il faut savoir que les forces de l'ordre sont à la 6h du matin chez ces gens-là pour les réveiller. Donc ça, c'est digne d'un régime d'il y a 50 ans en arrière. Donc voilà comment on est gouverné aujourd'hui. Quand il y aura une personne dans ce pays qui va dire « je suis pas d'accord avec ce que dit le petit », il va finir en tôle. C'est ça qui va se passer. Donc voilà. Donc après, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on a des délégations du gouvernement français qui part en Chine, qui va dans des pays comme ça, et qui va donner des leçons de morale aux autres en disant « mais comment, il n'y a pas de droit de l'homme chez vous ?» Mais qu'est-ce que c'est sur une réforme des retraites où les gens manifestement s'opposent, eux, ils sont en train de nous expliquer qu'ils font ce qu'ils veulent, c'est comme ça, il n'y a pas de pénurie, qui commence déjà par bien... Enfin, par bien écouter ce qui se passe dans la rue, et après il ira donner des leçons de morale aux autres. Parce que ce qui s'est passé à Donge là, c'est très 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 grave. Avec la direction de Total, Faisin, ça se passe plutôt bien au niveau du dialogue. Ils nous ont expliqué hier que c'était pas l'ordre du jour. Donc pour moi on attend. Mais bon, on est prêt, hein. On est prêt juridiquement, puis on est prêt tout. Donc s'ils veulent venir chercher venir avec des forces de l'ordre, ils ont intérêt à venir bien préparés, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réquisition, normalement, c'est utilisé en temps de guerre. En temps de guerre, je dis bien en temps de guerre. C'est-à-dire que si on est envahi par un pays, ou s'il y a une force extérieure qui vient envahir le pays, voilà à quoi sert la réquisition. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on doit ouvrir les vannes et qu'on doit alimenter les forces utiles du pays. On n'est pas en temps de guerre, ce que je sache. Ou alors c'est la guerre civile. Grosso modo, il y a 5 jours de stock, hein, et encore. On n'en est même pas sûr. De toute manière, quand ces stocks-là, même s'ils les sortent par la force, eh ben, ils seront écoulés. Les unités ne tombent pas, elles ne fabriquent plus rien. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Donc moi, j'invite les gens à vite courir aux pompes et à vite les vider. Et c'est bien, avec des jerrycans, avec des camions si vous voulez, ce que vous voulez. Parce que sans créer la panique, c'est quand les pompes elles seront vides qu'il va s'asseoir à une table, le président de la République. Autrement, il ne s'asseoira pas à cette table-là.
En cas de réquisition pour ce qui est de le fuel pour les hôpitaux ou pour les crèches, quoi que ce soit, il n'y aura aucun problème. Les salariés sont bien conscients. On n'est pas des illuminés. On ouvrira nos stocks par rapport à ça.
La décision de reprendre, ça met nécessairement au moins 4 jours.
Oh, facile. Au moins, minimum 4 jours. Les unités ne peuvent pas démarrer tout en même temps. Il y a certaines unités qui doivent démarrer en priorité pour pouvoir démarrer d'autres. Ce qui veut dire que ça va prendre quand même un certain temps. Hein. Et c'est un site Céveso 2. Donc il y a des consignes de sécurité, il y a des procédures. C'est drastique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et vu que les gens ici sont des gens responsables et sont des gens qui connaissent leur métier parfaitement, ils feront les choses dans les règles de l'art, tranquille et en toute sécurité pour les riverains et pour eux-mêmes.
Il y a une caisse de solidarité qui a été organisée par les délégués syndicaux de la CGT et de la CFDT. Et donc, c'est pour soutenir le mouvement au niveau financier, pour soutenir le mouvement de la raffinerie de Faisin. Et c'est vrai que ça a donné un peu du baume au cœur à tous les salariés qui sont en grève là, maintenant depuis presque une semaine.
Voilà pour ce reportage auprès des grévistes de la raffinerie de Faisin. Donc, on sent une vraie combativité, on sent que le mouvement il s'installe. Il y a des choses qui s'organisent, il y a des collectes, des caisses de grève qui se montent. On peut soutenir les grévistes en n'étant pas soi-même gréviste, en participant à la solidarité financière, par exemple.
Oui, ben, je crois que la plupart des raffineries là, qui sont en grève ont mis en place leurs moyens de solidarité financière. Il y a un texte, il y a un tract qui circule, qu'on a fait avec l'initiative communiste ouvrière, qui cite quelques endroits, quelques adresses où on peut envoyer des chèques, hein, que ce soit à Donge, que ce soit en Seine-Maritime, que ce soit dans le Nord, à Dunkerque, enfin à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Là, l'action qu'on a menée avec les collègues ce matin, bah, justement, ça a permis de collecter un peu d'argent pour les raffineries, puis aussi pour le moral. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire quand on milite dans une section syndicale ou dans un syndicat qui a un peu de fric, et ben le syndicat peut envoyer 1000 euros ou 500 euros, je sais pas, hein, selon les finances aussi, pour soutenir telle ou telle raffinerie, en sachant qu'en plus en plus du soutien financier, c'est aussi un soutien moral, quoi. C'est aussi montrer aux camarades des raffineries qu'ils sont pas tout seuls. Et là, je crois que ça marche quand même plutôt bien. Hein. J'ai vu, par exemple, que Sud, collectivité territoriale, dans le Nord, Pas-de-Calais, a envoyé 7000 euros, je crois, à la raffinerie de Dunkerque. Bon, c'est des trucs qui commencent à marcher pas trop mal. Des choses qui peuvent être organisées, je dirais même, dans une boîte ou dans un quartier où il n'y a pas forcément de très forte mobilisation, à quelques-uns, il y a moyen d'essayer de collecter et d'envoyer à une raffinerie. Aux grévistes d'une raffinerie, quoi.
C'est clair, ouais.
Alors, il y a plusieurs, il y a certaines raffineries, c'est les intersyndicales, CFDT, CGT, il y en a, c'est CGT, il y en a, c'est Sud Chimie. Après, à chacun un peu de voir. Pour ceux qui habitent pas trop loin des raffineries, ben, le plus simple, c'est de passer directement et puis aussi de filer un coup de main pour défendre les dépôts ou pour aider les camarades des raffineries. Bon, sur Besançon, on n'a pas vraiment de raffinerie, dans les environs. Donc du coup, on va envoyer les trucs par la poste, quoi. Mais je pense que c'est des choses aussi. C'est vraiment les raffineries qui c'est vraiment la locomotive du mouvement aujourd'hui. C'est ce qui fait le plus peur au gouvernement, parce que les grèves de cheminots, c'est important, hein, les grèves de cheminots, bon, ils ont pu y faire face, mais alors là, on sent une panique du gouvernement par rapport aux raffineries, quoi, et par rapport à l'idée qu'il pourrait manquer d'essence. Là, on sent qu'ils ont la trouille sur cette question-là. Et en plus, sur les raffineries, ils peuvent pas dire « Ouais, regardez, c'est le secteur public qui prend les usagers en otage », puisque les raffineries, c'est bien le secteur privé, quoi. Total, c'est loin d'être la fonction publique.
Et en fait, si... Donc il faut absolument que les raffineries elles tiennent, que la grève tienne, et que ça entraîne d'autres secteurs dans la grève, quoi.
Bah, je pense que c'est ça, oui. Les secteurs qui sont déjà en grève, bah, pour qu'ils tiennent, il y a deux choses, hein. Il y a la solidarité financière, notamment pour les raffineries. Les cheminots, par exemple, ce qu'ils ont peur, c'est de se retrouver tout seuls. Donc ils ont besoin de voir d'autres boîtes, d'autres salariés qui bougent ailleurs. Et c'est à mon avis, c'est ce qui fait le plus peur au gouvernement. Bon, il y a la crainte d'une pénurie d'essence. Et alors, ce qui leur fait vraiment très, très peur, c'est une généralisation de la grève et des luttes, quoi. Alors là, on le sent, c'est vraiment la répression qu'ils utilisent. Quelque part, elle montre leur faiblesse plutôt que leur force, quoi. Parce que, puisque ça montre qu'ils sont, ils ont la trouille du mouvement qui commence à naître, quoi. La répression, là, le copain de la raffinerie parlait de donge, bah, ça montre quand même qu'ils sont paniqués. Et d'ailleurs, ils le font, ce que je disais tout à l'heure, hein, ils le font parfois très mal, puisqu'ils entraînent parfois des gens en grève à cause de leur répression.
Pour avoir des infos sur le mouvement, il y a un site sur l'aspect syndical, sur la grève elle-même, c'est le site En Grève. Donc c'est engrève.wordpress.com. Sinon, sur d'autres aspects, enfin sur ça aussi, il y a Jura Libertaire qui essaye de regrouper des infos. Enfin, c'est dur de tout regrouper, quoi. Il y a les Intimédias aussi sur d'autres aspects un peu périphériques ou d'autres points de vue sur le mouvement. Et puis sinon, il y a les piquets de grève où on discute, parce que c'est ça aussi une grève, c'est qu'on voit les choses autrement, et c'est qu'on n'est plus chacun chez soi devant sa télé, et qu'on est dans l'action ensemble, et qu'on est à faire des choses et à discuter les problèmes et les situations ensemble, quoi.
Oui, bah alors pour le site En Grève WordPress, bon, il est très facile à trouver, hein. Il suffit dans Google taper En Grève WordPress. Et on tombe dessus, on est un petit groupe de camarades, où on essaye comme ça de collecter un peu toutes les infos qu'on peut trouver sur le mouvement, en particulier dans la presse locale, parce que la presse locale est plus proche pour parler des débrayages, des choses comme ça.
Elle ment moins que les presses, les grands journaux.
C'est plus facile au niveau national de dire qu'il se passe rien, même si tout le monde sent bien qu'il se passe quelque chose, que de dire à des gens d'une ville il se passe rien quand tout le monde sait que la boîte d'à côté est en grève, quoi. Et il y a aussi, on met aussi des comptes rendus d'AG, enfin il y a des choses qu'on reçoit, des comptes rendus d'AG, des comptes rendus de manif, des comptes rendus d'action, des appels soit d'intersyndicales, soit de syndicats, soit d'assemblée générale de grévistes, pour essayer d'avoir une vision un peu globale du mouvement, parce que bon, les rapports de force sont un peu différents entre Marseille qui est à la pointe. Et bon, bah, je parlais de Besançon ou de Strasbourg, qui sont des villes un peu moins mobilisées. Ouais, voilà, pour partager des infos. Et du coup, on organise samedi soir à 20h30 une petite discussion sur Paul Talk. Alors, je vais pas expliquer en ligne à la radio, parce que ça va être super compliqué et personne va rien comprendre et vous allez perdre tous vos auditeurs. Mais en fait, en allant sur le site, il y a un onglet discuter sur le mouvement en ligne. Et qui explique, voilà, il y a un logiciel à télécharger qui permet de discuter, qu'il y ait des camarades qui soient de Caen, de Marseille, Besançon, de partout. Il suffit d'avoir, alors si on n'a pas de casque, c'est un peu dommage parce qu'on peut que écouter, on peut pas participer à la discussion, même si on peut envoyer des petits messages, des petits textos. Et si on a un casque et un micro, bon, c'est des trucs qui coûtent 9 euros, bon, il y a moyen comme ça de discuter entre personnes qui participent au mouvement, qui veulent en savoir un peu plus, de différentes villes pour voir un peu ce qui se passe et puis vers où on peut aller.
D'accord. Bon, ben, le rendez-vous est pris pour demain soir, alors
Samedi soir.
Samedi soir, oui, c'est ça. Ouais.
Donc c'est après-demain, on est que jeudi aujourd'hui.
Ok, bon, ben merci.
Les journées peuvent être longues.
Ouais. Surtout quand on milite et quand on est dans le mouvement.
Oui, oui, on fait plein de trucs dans la journée, mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'on discute aussi beaucoup plus facilement. On rencontre des gens d'autres secteurs que d'habitude, on croise peut-être dans le bus, on discute pas. Et même là, ce qu'on a vu, nous, ce matin, les bagnoles, les gens qui étaient en bagnole, ils discutaient. Il y a beaucoup de gens qui discutaient, quoi. Mm-hmm. 10 minutes, mais ils discutent, quoi.
Ouais. Et ben nous, on aura peut-être l'occasion de le refaire, de refaire une émission sur le mouvement.
Ouais.
On lâche pas l'affaire.
On va suivre ça de très près. Et puis, on te remercie beaucoup, Pascal.
C'est moi.
Et on dit à bientôt, et aux auditeurs, à dans 15 jours.
Ouais, toujours contre les bleus, toujours contre les blancs, on passe au rouge. Et c'est parti.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir, Pascal.
Salut.
On pensait pas que ça durait comme ça. On la voyait bien plus brève qu'elle donnerait un résultat. 40e jour de grève, occupation du lieu de travail, quitte à ce que l'on en crève, autant rester là plutôt que l'on s'en aille. Recherche maison mère, voulait délocaliser et se taire, exporter les machines et nous cacher à nous autres toutes ces combines. Compte tenu de la législation en cours, le dépôt de bilan de cette société a été confirmé ce jeudi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Quarantième jour de grève, on l'avait déclenché d'un coup, car on avait découvert par hasard, je rêve, la boîte allait être mise au clou.
Bizarre, autour des feux de pneus, dans tout ce malheur, on était un peu heureux. Des barrières entre certains se fendillaient, il y avait même des envies, on le sentait. Il y a même des gens qui jusque-là ne se parlaient jamais, mais là, se souriaient, papotaient.
Quarantième jour de grève, on a senti que le vent tournait, il n'y aurait pas de trêve, qu'on ne gagnerait jamais. 40e jour de grève, les CRS tapaient en rythme les boucliers. Il fallait que la grève s'achève, en haut lieu, on avait tranché. 40e jour de grève, Madame Thérèse pleurait. On se sentait tout seul, l'avenir barré d'un trait. Compte tenu de la législation en cours, le dépôt de bilan de cette société a été confirmé ce jeudi auprès de la Chambre de commerce et d'industrie.